beaucoup de nous avoir rejoints pour l'opération continuelle des nouveaux GTLD. Je m'appelle Christine Willett, je suis la vice-présidente des opérations de nouveaux GTLD. Je voudrais vous présenter mon équipe. Il y a Francisco Arias du service des répertoires techniques pour le nom de l'ICANN, Mark Guider de GIS Global Advisors, qui est le directeur de programme de Ibero, Bill Young de GIS Global Advisors, qui est notre conseiller technique pour le programme Ibero. Et je voudrais aussi vous présenter certains de nos invités distingués qui ont été invités pour parler du programme Ibero. Bernard Stratt, est-ce que vous voudriez parler? Le présentant de corps prend la parole. Je suis l'un des membres du comité institué par corps. Il y a d'autres collègues ici, mais l'équipe est celle qui gère toutes les opérations en Allemagne. Le représentant qui devait se rendre ici n'a pas pu le faire. Et puis de CNNIC, notre deuxième fournisseur Ibero, le représentant de CNNIC prend la parole. Je m'appelle Shan Yan Huang, du centre appelé CNNIC. C'est un vrai plaisir pour moi de participer à cette séance et de vous présenter le travail ici devant l'ICANN du projet Ibero. Je voudrais présenter mon équipe. C'est deux messieurs qui m'accompagnent. Le plus jeune et le plus énergique, Maître Memfrom, qui est directeur de programme d'Ibero, et Maître Sung Kung Ming, qui est le coordinateur d'Ibero. Nous avons aussi une équipe composée par le personnel dédié qui donne son soutien à la fonction d'Ibero, qui sont absolument préparés et engagés pour mener à bien cette tâche fondamentale. Pendant les dernières années, nous avons travaillé de manière active pour explorer des modalités pour rendre plus sûr et plus fiable l'Internet. Nous nous sommes rendus compte que l'ICANN avait ce même objectif de promotion de la confiance parmi les consommateurs. Nous nous sommes donc mis à travailler dans la recherche de cet objectif commun. Nous avons travaillé avec l'ICANN en tant qu'associé ou partenaire stratégique pendant très longtemps. Notre projet Ibero est un projet qui nous aide à atteindre notre objectif commun de faire tout ce qui est possible pour l'intérêt public. Nous nous sommes complètement engagés à l'utilisation de notre structure et de nos plateformes technologiques pour donner un soutien à la possibilité d'atteindre cet objectif, pour aider les bureaux d'enregistrement et la communauté au sens plus large. Maintenant, c'est Christine Willett qui prend la parole. Je vais céder la parole à Francisco pour qu'il fasse la présentation du panel. Et nous allons ensuite avoir des questions et des réponses à la fin de la séance. Francisco prend la parole. Merci, Christine. Nous occupons aujourd'hui de trois thèmes pendant cette séance. Un accord légal de service, le système de suivi et de surveillance pour ce service et deux autres thèmes que nous allons présenter plus tard. Nous l'appelons par un sigle, SLA. Nous avons ici un point central de l'ICANN, à savoir la préservation et l'élargissement de la stabilité, la fiabilité, la sécurité et l'interopérabilité mondiale de l'Internet en ce qui concerne les opérations. Nous savons que nous voulons pouvoir appliquer cela au nouveau GTLD et nous avons le mécanisme des bureaux pour restaurer les fonctions critiques au cas où il y aurait une situation d'urgence. Quelles sont ces fonctions critiques? Comme une partie de l'accord, nous avons avec les bureaux d'enregistrement, nous avons le DNS, le DNSSEC, nous avons le EPP, un protocole utilisé entre les bureaux d'enregistrement et les registres pour pouvoir créer et gérer les noms de domaine. Et il y a aussi l'une des fonctions principales qui est la sauvegarde des données. C'est aussi une base de données, c'est une copie de toute l'information disponible là. Toutes ces fonctions font un suivi au cas où il y aurait une défaillance dans le service de DNS, DNSSEC, EPP, Whois and WebWhois, et WebWhois, pardon, pour nous assurer qu'il fonctionne de façon appropriée. Les résultats vérifient le temps de réponse de ces services et il y a une condition, une exigence quant au temps qui peut s'écouler entre la mise à jour d'un nom de domaine et le moment où celle-ci est propagée au DNS et au WHOIS ou au WebWhois. Voilà le SLA tel qu'il apparaît dans l'accord des nouveaux GTLD. Vous pouvez voir des paramètres spécifiques que je ne vais pas détailler. En ce moment, si cela vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site, sur le microsite de l'accord, sur le microsite des nouveaux GTLD de l'ICANN. Ces accords contiennent aussi ce que nous appelons les seuils d'urgence. Ce sont des valeurs seuils à partir desquelles, lorsqu'il y a une défaillance sur l'une quelconque de ces opérations, l'opération d'un TLD passe sur le système Ibero, c'est-à-dire sur le travail de l'opérateur du registre de secours. Voilà donc le travail entre les bureaux et le système de suivi des TLD pour que l'équipe de l'opérateur de registre de secours des bureaux sache qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien et qu'il faut prendre le contrôle de l'opération du TLD. Le système de suivi et de monitoring de ce niveau de service SLA contient plusieurs nœuds de sondage distribués sur tout l'Internet au cas où il y aurait un problème considéré comme un problème. Il faudrait que plusieurs nœuds soient d'accord, pour ainsi dire, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ce niveau de service. Il ne suffit pas d'avoir un nœud identifiant le DNS, identifiant le DNS ou le TLD, un certain TLD qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons avoir plusieurs nœuds pour considérer qu'il y a une défaillance. Nous envoyons donc nos requêtes constamment au DNS ainsi qu'aux commandes de WHOIS et des requêtes au DNS pour savoir quel est l'état du service. À l'heure actuelle, nous avons 40 nœuds de sondage dans le monde et deux espaces qui cumulent l'information. Ce sont ces serveurs qui déclenchent les alertes au cas où l'on dépasserait certains des niveaux seuils. Voilà donc une représentation graphique de la structure. Où plaçons-nous ces nœuds de sondage? Nous avons deux types de services, le DNS et le WHOIS, qui sont des services publics fournis pour tout celui qui opère ou qui exploite Internet. On doit donc placer ces nœuds de sondage aussi près que possible des réseaux des utilisateurs. Le EPP est offert au moyen du registre au bureau d'enregistrement. Il faut donc placer ceci auprès des bureaux d'enregistrement et de points d'accès sur Internet. Voilà donc ici une image qui vous montre la situation, la localisation des nœuds de sondage annuels. Comme vous voyez, nous avons essayé de les distribuer pour toute la population Internet partout dans le monde. Et nous avons ici aussi essayé de couvrir les 5 régions géographiques où l'ICANN effectue son travail. Quant aux interactions dans le système de monitorage ou de suivi de SLA avec d'autres composants dans le programme des nouveaux GTLD, ce système de monitoring de SLA, de convention de service, de service, s'occupe de voir s'il y a une défaillance. On envoie donc une notification et l'on envoie le NOC de l'ICANN. Si l'incident est confirmé, nous allons voir une notification qui sera envoyée au contact d'urgence du registre pour que ceci puisse agir avant que nous n'arrivions ou que nous n'atteignions les niveaux seuil d'urgence. L'idée est que dès que l'on détectera quelque chose qui puisse être un problème, que l'on notifie de cette action pour commencer à atténuer les problèmes suscités par cela. Nous ne voulons pas attendre à ce que l'on atteigne les niveaux seuil d'urgence. Il y a aussi des rapports qui sont créés pour le niveau de conformité ou compliance pour que l'on puisse donner une notification et l'on envoie des alertes à Libero, à l'opérateur du registre de secours, pour qu'il puisse prendre des mesures. Là, vous avez un diagramme, un logigramme qui vous montre le processus des incidents et de la manière dont ils sont traités. Je crois que nous n'avons pas besoin d'aller dans le détail. Et voilà ce que je vous disais, ce que je vous commentais par rapport aux différents seuils. Il faut en définir plusieurs dans le système pour ne pas avoir à parvenir au niveau d'urgence. Nous devons faire un suivi constant pour nous assurer que les TLD fonctionnent de telle façon que nous ne soyons pas obligés d'appliquer des mesures extrêmes comme par exemple le recours à cet opérateur de registre de secours, les Libero. Encore une fois, je ne pense pas que nous soyons obligés d'aller dans le détail. Les repères opérationnels quant au système de monitorage de SLA, de la convention de service. Nous travaillons encore sur ce système de monitorage de convention de service. Jusqu'en octobre, nous avons lancé le monitorage du DNS et du WHOIS. C'est ce qui est à une étape d'essai. En décembre, nous aurons le système qui fonctionnera de façon complète pour ce qui est du monitorage. Nous aurons toute la partie des PP qui est une partie du système qui n'est pas encore opérationnelle. Nous allons aussi modifier la modalité de monitorage du DNS. En ce qui concerne la collision des noms, nous sommes en train d'étudier la modalité de monitorage continu pour pouvoir gérer les mises à jour, parce que dans les sections de collision de noms, l'on a apporté des modifications pour, par exemple, vérifier les registres des TLD. Nous espérons aussi que pour décembre, le NOC sera tout à fait opérationnel. Nous avons externalisé cette partie de la tâche. Nous avons fini le processus avec le fournisseur. Nous espérons bien que le NOC sera tout à fait opérationnel d'ici le mois prochain. Je vais maintenant apporter le deuxième thème, l'interface de rapport de registre. Voilà l'interface utilisée pour que les registres et les dépôts de données puissent informer l'ICANN les dépôts de données et les rapports envoyés par les registres. Ce système interagit avec d'autres systèmes et d'autres équipements au sein de l'ICANN et d'autres équipes. Par exemple, pour le cas du dépôt de données, comme il s'agit d'une fonction critique et qu'il y a certains seuils qui sont atteints, l'équipe des bureaux de l'opérateur de secours de registre, on le fait pour qu'il puisse agir. Il en va de même pour l'équipe de conformité, donc compliance. L'un des rapports exigés pour les registres, c'est celui des transactions. Ce qui a été enregistré, ce qui a été renouvelé. C'est des données qui sont utilisées par le secteur finance de l'ICANN pour pouvoir émettre les factures envoyées à ces bureaux d'enregistrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs utilisations de cette interface. Nous recevons les notifications quotidiennes des agents de dépôt de données sur les dépôts faits par les registres ou l'absence de ces dépôt. Les rapports des opérateurs de registre sont aussi reçus au moyen de cette interface, ainsi que les rapports mensuels. Lorsque l'agent de dépôt de données doit envoyer à l'ICANN une notification quotidienne, lorsqu'il reçoit son rapport comme non valable, valable ou manquant. Parce que ces rapports sont nécessaires au quotidien. Pardon, les dépôts sont reçus au quotidien. Si le dépôt n'est pas fait un jour déterminé, l'ICANN en est notifié. Le système fournit aussi je devrais me servir d'un seul au lieu de me servir de mon laptop. Quant au rapport mensuel, ce que l'interface fait, c'est valider ces rapports mensuels fournis par les opérateurs de registre. Et c'est une fonction établie pour les TLD existants qui se servent des mails et qui envoient un email à un alias de l'ICANN. Chez l'ICANN, à une personne, c'est moi à vrai dire, je reçois les rapports et moi je saisis ces rapports sur une base de données. Avec cette interface, on remplace cette partie du travail qui était faite et l'on va automatiser et tout valider pour nous assurer de répondre à toutes les spécifications de l'accord de registre. S'il y a une exception de convention de service, s'il y a des exceptions, des alertes seront envoyées aux parties concernées. Là, vous avez une représentation graphique du processus de dépôt de données. Je crois que nous n'avons pas besoin de le voir en détail. Et enfin, la spécification de l'interface de registre peut être consultée dans cette version préliminaire. S'il s'agit des candidats ou de nouveaux registres de TLD, vous connaissez fort probablement cette spécification de l'interface d'essai déjà disponible pour les agents de dépôt de données. Et c'est un environnement de production est déjà disponible. Nous avons reçu mardi dernier les deux premiers rapports mensuels. Je crois que c'est tout. Mike, maintenant. C'est Mike qui prend la parole. Merci, Francisco. Nous sommes ici pour partager un peu d'informations à propos du programme Ibero, l'opérateur de registre de secours. Pendant ces deux dernières années, le programme Ibero s'est développé et je ne sais pas si nous en avons eu une présentation pour décrire ces fonctionnalités. Ce que nous avons fait pour aujourd'hui, c'est ce qui suit. Nous avons identifié tous ces thèmes et nous voulons commencer par la mission de ce programme Ibero. Comment le service Ibero a été lancé ou est-il lancé, ainsi que l'inspection pour être prêt, parce que la préparation est absolument fondamentale pour ce type de service. Je voudrais aussi partager ce que signifie que d'avoir un TLD dans Ibero. C'est un peu différent de la situation d'un TLD ailleurs. Nous allons aussi parler de l'accord de service principal des Ibero, ce que cela signifie en termes d'engagement. Nous allons ensuite faire référence au processus de transition commun qui sera utilisé par tous les Ibero, les tâches ainsi que certaines conventions des services qui font partie de ce processus de transition commun. Nous allons ensuite faire des commentaires sur le service au client. Comme vous le savez, fort probablement, nous n'attendons pas nous espérons ne pas avoir trop d'événements d'Ibero, mais lorsqu'un événement se produira, tout le monde fixera son regard sur ce qui va se passer au moment immédiatement, venant immédiatement après. Donc nous voulons vous montrer tous les services disponibles. Notre mission est simple, c'est une mission de protection des titulaires de noms de domaine. Nous voulons pouvoir réaliser une transition rapide de ces cinq fonctions clés mentionnées par Francisco vers un autre environnement d'enregistre, c'est-à-dire pour les prestataires des bureaux. Ce que nous voulons, c'est protéger les titulaires de noms de domaine. Et nous le faisons des deux manières. La première modalité, nous essayons de les mettre, de les maintenir en dehors des bureaux. C'est l'une des missions, justement, du programme Ebero de l'ICANN, c'est-à-dire faire autant que possible tout ce qui est à notre disposition pour maintenir tous les télés en dehors de Ebero. Je vous raconterai un tout petit peu comment nous le faisons, comment nous évaluons le risque, mais je vous le raconterai après. La deuxième mission dont nous parlions avec Francisco concerne la migration rapide des fonctions vers un nouvel environnement. Une mise à jour très rapide sur la situation actuelle. Il y a déjà 2 années que nous travaillons sur ceci. Au début, nous avions 14 parties qui avaient répondu jusqu'en septembre 2011. Et à l'heure actuelle, il y a 2 nouveaux partenaires des bureaux qui sont CN, NIC et COR. Nous sommes vraiment très heureux d'annoncer que nous avons déjà préparé et que nous avons déjà mis en service, au cas où il y aurait un événement, il y a des équipes de réponse préparées et prêtes à se mettre en service. Nous travaillons aussi à la sous-traitance avec Noistar et Nominet. Nous n'avons pas encore fini ce processus de sous-traitance. Nous allons maintenant parler un tout petit peu du lancement du service. Il s'agit d'un service qui n'est pas habituel, en ce sens que nous voudrions ne jamais avoir à nous servir de ce service. L'idée est justement de ne pas vouloir chercher à se servir de cela. C'est pour cela qu'il est semblable à un service de récupération de défaillance complète d'un système informatique. Il faut donc avoir une préparation et le personnel fondamental avant de demander à un partenaire de fournir le service. L'idée est de nous demander à nous-mêmes de prouver que nous sommes en état de disponibilité. Une fois que le système est en service, il y a un autre élément. Cette notion de disponibilité qui concerne la pratique. Parce que nous n'allons pas recevoir 5 incidents par semaine et que nous allons améliorer les choses petit à petit. Nous avons besoin de nous exercer. Donc, avec nos 2 premières associées, pendant le premier trimestre de l'année prochaine, nous allons faire une épreuve d'événement. Maintenant, un tout petit peu pour vous raconter ce que c'est qu'une inspection. Une inspection sur le terrain. Nous avons 47 questions pour l'inspection, ce qui inclut la préparation du personnel en termes de disponibilité, en astreinte, les déplacements dans les zones, les fichiers de données qui sont déposés. Donc ces 3 essais qui sont listés là, ces 3 tests qui sont listés là, sont des essais chronométrés qui devront être faits dans les délais de l'accord ou la convention de service. L'exercice de l'événement est différent en ce sens que nous allons faire 2 choses pendant cet exercice. Bien sûr, nous allons nous exercer de manière absolument synchronisée, un mouvement de transfert complet d'un télé vers un nouvel environnement. Nous allons aussi nous exercer sur quelque chose qui s'appelle une alerte du niveau d'événement. C'est une alerte que nous allons décrire dans quelques minutes. Et ces alertes sont un cadre pour le monitorage, le suivi du risque que tout TLD spécifique à n'importe quel moment peut se voir obligé d'exercer pour passer les données à Ebero. Les personnes qui participent à cela sont bien sûr Ebero, l'agent de dépôt des données, et l'ICANN. L'ICANN fait partie de l'exécution concrète de cet événement. Mais nous n'allons pas vraiment passer cela sur la racine vivante. Les partenaires de la zone racine ne seront pas sollicités pour participer à cette dernière étape.
Bien sûr, nous allons un script. Et c'est ce que nous utiliserons pour simuler les données. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un exercice pour voir la capacité. Ce sera la première fois où tout le monde répondra de façon ensemble pour faire ce transfert en fonction des standards requis. Maintenant, j'aimerais demander à mon collègue Bill de nous parler un petit peu des TLD sur Ebero par rapport à un registre ordinaire. Bill prend la parole. Sur l'écran, vous pouvez voir deux colonnes où l'on fait une comparaison entre les fonctions critiques ainsi que l'expérience de l'utilisateur, les bureaux d'enregistrement et les titulaires de domaine. Quelle est leur expérience lorsque un TLD se trouve dans un registre standard et ceci vis-à-vis de Ebero? La première chose que je tiens à dire, c'est que Ebero possède les mêmes standards opérationnels et les mêmes spécifications opérationnelles qu'un opérateur de registre habituel. Les fonctions le fonctionnement d'Ebero doit respecter les 5 fonctions décrites dans les spécifications. Le registre, à ce moment-là, lorsqu'il renouvellera, incorporera ou retirera des noms de domaine, cela ne se fait pas sur Ebero. Ces fonctions-là ne se font pas sur Ebero. Et cela, c'est pour essayer de maintenir Ebero en dehors des transactions financières associées aux opérations de registre. Le registre Ebero est gelé en quelque sorte. On ne travaille pas avec de nouveaux noms, ni de renouvellement, ni avec des retraits de noms de domaine. Le registre peut avoir passé par le processus R-STEP ou avoir négocié des services supplémentaires qui ne font pas partie du service standard proposé par le registre sur la base des conventions de services. Ebero ne prend pas en charge cela. S'il y a des services de sécurité spéciaux ou des fonctions spécifiques accordées ou proposées par le registre, ces fonctions-là ne font pas partie des services Ebero. Ebero respecte uniquement ou accomplit les 5 fonctions spécifiées. Ces 5 fonctions restent toujours la responsabilité de l'opérateur de registre. Les registres normaux mettent en place tout type de transactions. Et c'est le registre qui gère ces événements dans le cadre de l'accord de registre. Sous Ebero, il n'y a pas de transaction financière entre les titulaires du registre et Ebero. Le registre doit payer des forfaits à l'ICANN sur la base du nombre de domaines, ou pour chaque domaine, alors que ce n'est pas le cas pour Ebero. La spécification 10 reste la même pour le registre normal et pour Ebero. On a DNS, DNSSEC, RDDS et SRS, le système de registre partagé. On exige qu'ils travaillent de la même façon avec les mêmes conditions de performance. En ce qui concerne le dépôt de données, c'est géré de la même façon. Ebero fait le dépôt de données lorsque la transaction est complète. Mike reprend la parole. Merci, Bill. Nous allons maintenant passer aux engagements que l'on demande à nos partenaires d'Ebero en ce qui concerne, sur la base, de la convention de service. Nous espérons que tous les engagements contractuels soient les mêmes pour tous les Eberos. Il s'agit d'un service dont nous avons besoin. Et il ne faut pas qu'il y ait des différences entre les Eberos qui vont agir. Nous ne voulons pas nous soucier de différences entre les Eberos. Pour les termes et les conditions, il y a des termes et des conditions standardisées, normalisées. Ils peuvent exister des différences en fonction des juridictions où sont placés ces Eberos, mais on s'attend à ce que les conditions soient les mêmes pour tous les Eberos. En ce qui concerne les différentes étapes qu'il faut franchir, ainsi que la communication, ainsi que les forfaits, tout cela sera identique pour tous les Eberos. Il n'y aura donc pas un modèle financier différent pour les Eberos, pour nos partenaires Eberos. Parfois, des difficultés apparaissent, par exemple, les taux que l'on paye aux Eberos sont en ligne avec ce que l'on appelle des notes supplémentaires du guide de candidature. Vous connaissez le guide de candidature, vous savez qu'il y a un guide qui s'appelle COI, c'est un instrument financier où l'on établit le montant qui doit être payé par le biais d'une note de crédit, le montant qui sera disponible au cas où il faudrait payer un service Eberos. Et tous les accords sont signés pour un délai de 5 ans. Comme le service Eberos est quelque chose de nouveau et que la communauté ne connaît pas, je voudrais vous montrer cette diapo où l'on voit les différents rôles. D'un côté, on voit le comité exécutif Eberos. Vous voyez qui compose ce comité. Christine, c'est la présidente des opérations de ce comité. Et le programme Eberos est sous sa responsabilité, sous sa direction. Le président de la division des noms de domaine mondial. Et on voit qu'il y a aussi le conseiller juridique de l'ICANN. Ce comité a trois rôles au niveau de la gestion globale, mondiale et la gestion de la gouvernance du programme Eberos. Donc d'un côté, il y a la surveillance générale du programme, la supervision générale du programme pour déterminer si nous remplissons notre rôle de façon correcte. Mais une mission plus spécifique de ce comité concerne le fait de savoir si l'on peut faire la révision et l'analyse des événements au fur et à mesure que l'on s'approche d'un niveau seuil. Je vais vous expliquer comment cela se fait. Ces personnes peuvent arrêter un événement. Et vous allez voir qu'il s'agit d'une fonction qui peut s'avérer nécessaire à la dernière minute, juste avant de mettre en place une transition du TLD vers la racine. La raison pour laquelle vous voyez trois personnes dans ces directeurs d'événements, c'est parce qu'on a besoin de ces trois personnes qui soient prêtes à tout moment. Il n'est pas possible d'être prêt pour un événement aujourd'hui, même si on n'a pas au moins trois personnes qui puissent diriger cet événement. Et c'est ce que fait le directeur d'événement. C'est le leader, c'est la personne responsable qui donne l'ordre de mettre en place cet événement, ce passage à Eberos, pour qu'un registre, un opérateur de registre Eberos commence à être opérationnel. Vous voyez ici que on a le directeur du programme Eberos, John Crane. C'est le directeur de la sécurité, la stabilité et la résilience. Et nous avons une autre personne, si John n'est pas disponible ou si moi-même ne suis pas disponible. Et cette troisième personne, c'est Bill, qui est ici à côté de moi. À terme, ces personnes seront remplacées par d'autres au fur et à mesure que le programme avancera. Mais il y en aura toujours trois. Il y aura toujours trois personnes. Je vais parler un petit peu maintenant sur le modèle de niveau d'alerte. Et il s'agit d'un cadre qui permet à l'ICANN de surveiller et d'évaluer les risques lorsque un événement peut se produire. Et ce modèle est conçu pour que différentes actions puissent être mises en place si notre évaluation détermine que le risque est proche. S'il y a une défaillance de plusieurs fonctions, on s'en rend compte parce que le système d'évaluation et de surveillance nous envoie des alertes avant de penser à mettre en place un événement Ebero. Il n'y a pas beaucoup de temps entre ces moments. Ce modèle est conçu pour faire en sorte que s'il y a des informations que l'ICANN reçoit en plus de cette surveillance, pour que nous puissions décider ce que nous pouvons faire pour éviter qu'un événement se produise. C'est la raison pour laquelle ce modèle existe. Essayer de faire en sorte que l'on puisse éviter qu'un événement se produise. Voilà notre modèle. Il y a beaucoup plus de détails à vous fournir, mais pour aujourd'hui, je voulais tout juste vous présenter le modèle de façon générale. Quels sont donc les services pour transférer un TLD? Les voilà. Voilà les niveaux de services, les conventions de services accordées par nos partenaires Ebero. Si on fait l'addition des heures totales pour faire la transition des cinq fonctions afin qu'elles soient complètement opérationnelles, on devrait penser à 150 heures. Or, nous nous attendons pas à ce que ce soit uniquement le convention de service. Notre objectif est de faire cela dans les plus brefs délais, si c'est nécessaire, en moins de 150 heures. Voilà une autre façon de considérer ces conventions de service. Si on parle de zéro heure, à zéro heure, l'événement est lancé, DNSSEC en moins de 24 heures, puis nous attendons le dépôt de données. Nous travaillons avec le SRS et après le RDDS et l'agent de dépôt de données. Les conventions de service ont été établies en pensant qu'il y aurait des complications, des divergences, des choses qui ne vont pas fonctionner, parce que c'est des choses qu'on ne fait pas fréquemment. Et nous essayons de prendre tout cela en compte quand nous avons établi ces conventions de service et quand nous les avons établies à 150 heures. Mais nous avons travaillé beaucoup avec nos partenaires pour essayer de réduire ce nombre d'heures et réduire les délais au moment de mettre en place ce type de transition. Aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment quel sera ce chiffre, ce numéro. Nous nous améliorons, mais nous croyons que les objectifs que nous devons établir, c'est de faire en sorte que le DNS puisse être opérationnel en quelques heures, moins de 8 heures, et que toutes les fonctions puissent être opérationnelles en un délai de un jour. Je pense qu'il est très important pour nous tous de comprendre que si nous nous engageons dans notre mission de protéger le bureau d'enregistrement et le titulaire du nom de domaine, il nous faut nous engager à faire cette transition de la façon la plus rapide possible. Très bien. quelques commentaires par rapport au rôle du service au consommateur au cas où il y aurait un événement. Il y aurait beaucoup de personnes qui voudraient contacter quelqu'un et parler sur quelque chose. Et bien sûr, les parties concernées sont les bureaux d'enregistrement, les agents Ebero et bien sûr les CAN. Et vous voyez donc que les bureaux d'enregistrement sont responsables des titulaires du nom de domaine. Les agents Ebero, le service Ebero est responsable des bureaux d'enregistrement pour assurer que les fonctions EPP soient disponibles. Et les CAN est concerné, le cas échéant, pour pouvoir gérer toute différence ou discrépance au niveau des données au cas où il y aurait des événements inattendus qui se produisaient. Voilà, merci beaucoup. Christine reprend la parole. Merci pour ces présentations. Nous allons passer maintenant aux questions et aux réponses. Si vous voulez faire la queue devant le micro. Merci beaucoup. C'est Brian Frenson. Je voudrais savoir un peu plus par rapport au programme Ebero. Je vais commencer par un commentaire. Il est très important de voir s'il y a des défaillances qui nous ramènent aux services de secours, mais il faudrait penser aussi s'il y a des services de secours qui sont défaillants. Dans votre programme, je crois qu'il y a une échelle que vous considérez. Si, par exemple, 300 TLD ne fonctionnait pas, est-ce qu'il y aurait un support pour ce type de défaillance? Mike prend la parole. Je vais commencer par votre deuxième question. Vous avez parlé de .com. J'appelle les 22 registres originaux, mais ce n'est pas vraiment ainsi. Ceux-ci ne sont pas dans la portée de ce programme de conception d'Ebero. Il y a un travail à l'étude pour essayer de les incorporer, ces 22 registres qui existaient avant les TLD. Il y a aussi les facteurs d'échelle. Vous avez parlé de .com et ça, c'est un facteur important. Bill prend la parole. Je veux dire ici qu'on parle ici d'une transition en cas d'urgence des registres, mais non pas des bureaux d'enregistrement. On ne prête pas un service pour les bureaux d'enregistrement. Du point de vue de l'échelle, nous envisageons 150 événements qui couvrent 3 millions de noms de domaine dans un délai de 3 ans. Et combien d'événements simultanés? 2. On a 2 agents Ebero. Chaque équipe travaille de façon individuelle. Mais nous avons aussi un plan pour une catastrophe comme celle que vous venez d'évoquer. Nous avons pensé à ce type de problème, mais nous n'avons pas des conventions de services. Nous allons restaurer les services en fonction de la criticité de cette situation. Wendy, je vais lire une question à distance. Les opérateurs de registre ont accès à l'interface web, par exemple, où l'on peut voir l'état actuel de leur registre. Et si c'est le cas, y aura-t-il une option pour qu'il y ait des informations lisibles par des machines qui puissent s'intégrer dans le système de monitorage propre à l'opérateur de registre? Francisco prend la parole. Merci, Wendy. Nous devons avoir une interface pour les registres. Et ce sera l'interface que nous aurons après les PP. Nous n'avons pas encore envisagé une interface qui puisse être lisible par les machines, mais nous en prenons note. Pendant la présentation, Bill a dit qu'il n'y aura pas qu'il n'y aura pas de transactions financières. À quoi faites-vous référence lorsque vous parlez de transactions financières? Que se passe-t-il lorsqu'un registre sort d'Ebero? Est-ce que ce registre pourra récupérer? Parce que s'il a perdu les enregistrements annuels pendant ce temps, une fois que ces noms redeviennent en ligne avec l'opérateur de registre. Que se passe-t-il au niveau des transactions commerciales? Je me suis surtout concentrée sur l'aide au registre, mais je pense que c'est important de penser à cela. Peut-être que vous pourrez partager avec nous votre point de vue par rapport à cette question. Mike prend la parole. Je vais essayer de vous donner une réponse. Les relations contractuelles entre les bureaux d'enregistrement et les registres qui sont envisagées dans le cadre des bureaux restent telles qu'elles étaient. Elles ne disparaissent pas, elles ne changent pas ces relations contractuelles. Ce qui change, en fait, c'est que les bureaux d'enregistrement qui normalement payent quelque chose au registre, cela continue. L'ICANN paye à Ebero pour que Ebero fasse la plupart des choses que font les registres, c'est-à-dire avoir un service de secours pour assurer les fonctions du registre. Donc, du point de vue des tarifs, cela dépend des contrats. C'est ce que je comprends. Christine prend la parole. Dans des événements, des transactions commerciales ou financières, il y aura de nouvelles transactions et nouveaux événements qui ont lieu sur Ebero. Et donc, pour les titulaires de notre domaine, il n'y aura pas de transactions commerciales, des événements qui puissent être facturés. Lorsqu'on parle de service client à la fin, c'est justement pour tenir compte de ces opérateurs de registre qui doivent être bien coordonnés pour pouvoir gérer cette transition vers Ebero. Le participant, le public prend la parole. J'ai participé pendant plusieurs années et parfois les bureaux d'enregistrement ont présenté des défaillances. Et pendant ces défaillances, les registres ont continué à renouveler des noms. Et lorsque la transition a été faite de ces enregistrements à d'autres bureaux d'enregistrement, parfois les registres ne sont pas rémunérés pendant cette période. Pour cela, je vous présente cette question du point de vue un peu historique. L'ICANN a géré à un moment donné ses paiements, mais parfois ces registres n'ont pas reçu les paiements. Christine prend la parole. Comme je vous ai dit, du point de vue des bureaux d'enregistrement, s'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de nouveaux enregistrements, personne ne pourrait toucher de l'argent dans cette situation. De toute façon, je vais essayer de me renseigner pour mieux vous répondre.
Un autre participant prend la parole. Le Canon, vous avez dit qu'il n'y avait pas y avoir d'événement d'expiration. Cela signifie qu'indépendamment de la durée du terme de l'enregistrement, au moment de la transition, tous les enregistrements seront maintenus pendant la gestion du TLD par les bureaux. La réponse est oui. Un autre participant, Romanskiu, avez-vous une matrice de spécialisation pour les prestataires des bureaux, c'est-à-dire ceux qui donnent leur soutien à l'IDN ou ceux qui n'ont, où il n'y a pas de soutien pour l'IDN, parce qu'il se peut qu'il y ait un cas où il se peut que la totalité, qu'il y ait des fournisseurs des services Evero ne puissent pas donner un service. Et cela se rapporte à la totalité des domaines. Au cas où un prestataire d'Evero ne donnerait pas son soutien au prestataire de domaine, titulaire de nom de domaine, est-ce qu'il y a des caractéristiques que certains prestataires de services Evero pourraient fournir et d'autres pas? Bill prend la parole. Tous nos fournisseurs Evero répondent aux exigences. Il faudrait que je regarde de façon spécifique les attributs de nom de domaine. Tous nos fournisseurs donnent un soutien aux normes Ebero. comment ces données sont transformées, c'est le participant qui prend la parole. Ce n'est pas que la représentation interne, c'est l'interface avec le bureau d'enregistrement qui attend cette métaphore. Alors, les registres, les opérateurs de registres dans ce TLD, parce qu'ils peuvent les actualiser, les mettre à jour, les registres des TLD. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des attributs. Alors, le service Ebero doit donner son concours à cette option de gestion des attributs. Francisco reprend la parole. Je comprends ce que tu dis. À mon avis, c'est une question intéressante. Le registre, l'opérateur de registre dépose les données comme un objet ou comme un attribut. Il y a ensuite une autre question, c'est la manière dont Ebero va importer ces données sur la base de données. Je crois comprendre que cela est une question absolument indépendante. Le service peut prendre un attribut et le transformer en objet parce que c'est une présentation interne, c'est pas important. Mais ce que vous soulevez concerne l'interface avec le bureau d'enregistrement. On peut s'attendre à ce que ces TLD soient gérés d'une certaine manière. Cependant, le rapport entre les bureaux d'enregistrement et les anciens registres n'est pas la même qu'avec le service Ebero. C'est un rapport différent. La supposition qui était utilisée auparavant n'est peut-être plus valable. C'est le participant qui prend la parole maintenant. Cette transition ne pourrait pas échouer pour ces questions du mécanisme. Il faudrait tenir compte de cette possibilité. Christine prend la parole. Merci. Nous avons une question d'un participant à distance. C'est une question d'Andy G. Wendy prend la parole. L'ICANN a-t-elle considéré les implications anti-trust, anti-monopole, de permettre à CNIC et à TLD d'enregistrer leur marque et en bloquant Jazeera pour le faire? C'est Christine qui prend la parole. Je ne pense pas que ce soit une question appropriée pour ce forum, mais nous vous remercions de l'avoir posée. Si nous n'avons plus de questions, nous allons commencer à clore cette séance. Nous vous remercions énormément de votre participation. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure du progrès de ce mécanisme de soutien à la continuité des opérations. Nous vous remercions de votre attention.